Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Ise Tsikar et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Il y a plus de 200 ans, naissait dans un faubourg populaire de Besançon l'une des grandes figures de la Révolution, Pierre-Joseph Proudhon. De lui, on connaît la formule, la propriété, c'est le vol, mais sa pensée, bien plus complexe, mérite que l'on s'y attarde. Journaliste, essayiste, homme politique, son combat aux côtés des ouvriers a traversé le 19e siècle, de la monarchie de Juillet à la Commune, et résonne encore dans l'actualité. Une réflexion économique et philosophique que nous allons explorer aujourd'hui. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, nous nous glissons dans la peau de Pierre-Joseph Proudhon en compagnie d'Anne-Sophie Chambost, historienne du droit, professeure à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et autrice de Proudhon, l'enfant terrible du socialisme, publié chez Armand Collin. En compagnie également d'Édouard Jourdain, enseignant en sciences politiques à l'université de Franche-Comté et auteur de Proudhon contemporain, paru aux éditions du CNRS.
Né et élevé au sein de la classe ouvrière, lui appartenant encore par le cœur et les affections, surtout par la communauté des souffrances et des vœux, ma plus grande joie, si j'obtenais les suffrages de l'Académie, serait de travailler sans relâche par la philosophie et la science, avec toute l'énergie de ma volonté et toutes les puissances de mon esprit, à l'amélioration physique, morale et intellectuelle de ceux que je me plais à nommer mes frères et mes compagnons, de pouvoir répandre parmi eux les semences d'une doctrine que je regarde comme la loi du monde moral, et, en attendant le succès de mes efforts, de me trouver déjà, messieurs, comme leur représentant vis-à-vis de vous.
Bonjour Anne-Sophie Chambost et Édouard Jourdain.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait de la lettre de candidature de Pierre-Joseph Proudhon adressée aux membres de l'Académie de Besançon le 31 mai 1837. Le jeune Proudhon a alors 28 ans et dans ces quelques mots, on entend déjà ce que sera le combat de sa vie, Anne-Sophie Chambost.
Oui, tout à fait. C'est une lettre particulièrement intéressante puisque on a beaucoup reproché à Proudhon certaines contradictions, mais il me semble au contraire en effet que cette lettre écrite au tout début de ce qui va devenir sa vie intellectuelle, elle trace un projet auquel il sera fidèle pendant toute cette vie, justement.
Ses origines populaires vont marquer à la fois ses engagements et ses écrits, Édouard Jourdain.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour l'époque, Proudhon, socialiste, anarchiste, est un des seuls théoriciens qui est issu de la classe populaire. Donc, contrairement à, par exemple, Marx, qui est issu de la bourgeoisie, ça c'est quelque chose aussi qui va être très prégnant et très très important, ne serait-ce aussi que dans la diffusion de ses écrits et sa popularité aussi auprès des classes populaires, ouvrières, des artisans de l'époque. Parce que dans le milieu du 19e siècle, en France, Proudhon est quelqu'un qui est très connu, hein, beaucoup plus que Marx, évidemment.
Alors, il naît à Besançon en 1809, d'une mère cuisinière et d'un père tonnelier puis brasseur. Et à l'âge de 12 ans, il obtient une bourse d'externe au Collège Royal de Besançon. Il se retrouve alors au milieu des enfants de la bourgeoisie locale. Et pour lui, c'est un choc, Anne-Sophie Chambost.
C'est un choc et malgré tout une forme d'épanouissement intellectuel puisque il est apparemment assez doué et obtient un certain nombre de prix. Malheureusement pour lui, vous avez effectivement décrit la situation de ses parents et il ne pourra pas continuer ses études. Et c'est la raison pour laquelle précisément, ensuite, il candidatera à la pension soir pour finir en quelque sorte ce qu'il avait commencé.
Il écrit « Je rougissais de ma pauvreté comme d'une punition. Je sentais qu'elle vous rabaisse, qu'elle vous avilie. Tout ce que je sais, je le dois au désespoir. » Il a peut-être une relation ambivalente, Édouard Jourdain, à ses propres origines.
Oui, alors ambivalente, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clairement quelqu'un qui voulait résoudre un problème social. C'est-à-dire que sa condition, évidemment, l'a beaucoup marqué et... Et en effet, au début de son mémoire sur son premier mémoire sur la propriété en 1840, Il dit bien que son objectif principal, hein, c'est de résoudre cette question sociale dont il a été aussi le victime en quelque sorte. Et il ne comprend pas, hein, pourquoi il y a des personnes qui naissent et qui vivent dans la misère et d'autres non. Et donc, il, comme disait Anne-Sophie en début d'émission, hein, il va s'attacher toute sa vie à essayer de résoudre ce problème. Alors, paradoxalement aussi, venant de la classe ouvrière, c'est aussi quelqu'un qui pourra avoir des mots très durs par rapport à la classe ouvrière. Pour lui, alors il dit à un moment, hein, la classe ouvrière, c'est un sujet auquel j'essaie de donner les clés pour s'émanciper, mais ce n'est pas un dieu auquel j'offre mon encens. Hein. Donc, il est bien qu'il y a aussi parfois une certaine servitude volontaire qu'il s'agit de dépasser. Donc, il peut aussi être très dur envers les siens.
Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est en grande partie un autodidacte. Il va beaucoup apprendre notamment de son travail de correcteur dans une grande imprimerie de Besançon. Et il va rédiger à l'époque un premier essai de grammaire générale qui est un essai très érudit de grammaire comparée de l'hébreu, du grec et du latin. Oui. Anne-Sophie Chambas.
Oui, c'est quelqu'un qui est effectivement, qui a des ambitions intellectuelles et des capacités intellectuelles en effet assez précoces et qu'il va en effet mettre au service d'une pensée qui est d'abord une pensée très érudite sur la grammaire, parce qu'il a un ami, Gustave Fallot, qui l'a introduit à ces questions, et pour lequel d'ailleurs, c'est un ancien lauréat de la pension Suard et de la mémoire duquel Proudhon s'inscrira à cette pension, candidatera à cette pension, mais assez vite finalement il va abandonner ses options purement intellectuelles pour, comme le rappelait Édouard, embrasser, disons, une carrière intellectuelle plus orientée sur l'économie d'abord et la politique ensuite.
À 28 ans, il postule donc à cette bourse de 3 ans de l'Académie des Lettres, Sciences et Arts de Besançon, dont on entendait un extrait de sa lettre de candidature. Il obtient sa bourse et s'installe à Paris pour 3 ans. À quoi ressemble alors sa vie, Anne-Sophie Chambost ?
C'est une vie d'études. Il la passe beaucoup en bibliothèque, puisque vous rappelez sa situation familiale. On sait qu'il avait obtenu un certain nombre de prix, de livres en prix, et qu'il a dû les revendre tout jeune, et du coup il fréquente beaucoup beaucoup les bibliothèques, il suit un certain nombre de cours à l'institut, donc il est toujours sur les livres, et ce qui est très intéressant pour les chercheurs, c'est que en fait il écrit, il rédige un certain nombre de cahiers de lecture qui sont pour nous une véritable mine, puisqu'il résume en fait l'essentiel de ses lectures dans ses cahiers. Et donc on peut suivre finalement toutes ses lectures de la période Suard dans les cahiers de lecture.
Et dans son mémoire pour l'Académie, qui est intitulé « La célébration du dimanche », apparaît déjà l'une de ses premières grandes idées, qui est « Il n'existe pas de liberté sans égalité ».
Oui, et qui développera par la suite dans son ouvrage « Qu'est-ce que la propriété ?». Alors, de la célébration du dimanche, c'est un ouvrage un petit peu particulier. C'est le seul qu'il reniera de son vivant, parce qu'il estimera qu'il est encore un peu trop empreint de dimension religieuse dont il se détachera par la suite. Non, il y a un autre point qui est très important dans ce mémoire. Comme son titre l'indique, de la célébration du dimanche. Alors, il y a cette dimension religieuse, mais il y a aussi, déjà, en germe, la dimension socialiste. Alors, pourquoi ? Parce qu'il estime que le dimanche doit rester un jour sacré, férié, qui doit être consacré aux loisirs, à la famille, etc. Et qui ne doit pas être pris comme un jour de travail. Hein, parce que déjà à l'époque, en fait, il y a des théoriciens libéraux, mais aussi des capitalistes, etc., qui estiment que le dimanche doit pouvoir être un jour travaillé aussi. Et lui, il dit non, il faut que ce jour-là soit sanctuarisé, il faut garder bien des jours où l'on ne travaille pas. Donc ça aussi, c'est très important dans sa pensée.
Et c'est la réflexion de ce premier mémoire qui le mènera, comme vous l'avez dit, à l'écriture d'un autre mémoire publié en 1840, qui est peut-être son travail le plus célèbre, un mémoire intitulé « Qu'est-ce que la propriété ?». Écoutons un extrait.
Si j'avais à répondre à la question suivante « Qu'est-ce que l'esclavage ?» et que d'un seul mot je répondisse « C'est l'assassinat », ma pensée serait d'abord comprise. Je n'aurais pas besoin d'un long discours pour montrer que le pouvoir d'ôter à l'homme la pensée, la volonté, la personnalité est un pouvoir de vie et de mort, et que de faire un homme esclave, c'est l'assassiner. Pourquoi donc à cette autre demande, qu'est-ce que la propriété, ne puis-je répondre de même, c'est le vol, sans avoir la certitude de n'être pas entendu, bien que cette seconde proposition ne soit que la première transformée. J'entreprends de discuter le principe même de notre gouvernement et de nos institutions, la propriété. Je suis dans mon droit. Je prétends que ni le travail, ni l'occupation, ni la loi ne peuvent créer la propriété, qu'elle est un effet sans cause. Suis-je répréhensible ? La propriété, c'est le vol. Voici le tocsin de 93. Voici le branle-bas des révolutions. Lecteur, rassurez-vous, je ne suis point un agent de discorde, un bout de feu de sédition. J'anticipe de quelques jours sur l'histoire. J'expose une vérité dont nous tâchons en vain d'arrêter le dégagement. J'écris le préambule de notre future constitution.
La propriété, c'est le vol. La citation est célèbre. On a peut-être trop souvent réduit Proudhon à cette phrase, Anne-Sophie Chambost.
Oui, alors il y en a d'autres. Hein. Dieu, c'est le mal, par exemple. Il a un sens de la formule, effectivement, qui fait très tôt alors des merveilles, parce qu'on retient précisément des formules. Et globalement, je suis pas sûre que tout le monde ait lu qu'est-ce que la propriété, mais tout le monde sait effectivement que la propriété, c'est le vol. Donc il a un sens de la formule. Cet ouvrage, effectivement, est une première pierre que Proudhon envoie dans les eaux un peu calmes de la monarchie de Juillet, où la propriété rayonne. Et donc, effectivement, c'est c'est un coup de maître de Proudhon, puisque cet ouvrage va lui apporter d'emblée une première notoriété un peu scandaleuse et sulfureuse.
Proudhon veut en fait remplacer la propriété par la possession, et pour cela, dit-il, il faut supprimer le droit d'aubaine qui correspond au fait de tirer un revenu de la propriété et non de son travail, Édouard Jourdain.
Il y a plusieurs dimensions dans l'analyse de la propriété chez Proudhon. En effet, il y a cette idée que le capital ne peut pas se reproduire de lui-même. C'est-à-dire que le droit d'aubaine, c'est ça, c'est que il y a de la propriété qui sort de la propriété sans travail. Donc c'est ça, en fait, qu'il va critiquer, dont il estime que c'est le propre de la propriété capitaliste. Donc lui va concevoir une autre forme de propriété, dont plus tard il dira que la propriété, c'est la liberté. C'est pour ça qu'il y a des contresens parfois qui sont faits sur la pensée de Proudhon, alors qu'en fait il a toujours eu plus ou moins la même. Mais c'est l'idée que voilà, une véritable propriété qui serait liée avec la notion de justice aussi, qui est un thème très important chez lui. La propriété, en fait, c'est la possession. Et donc, la propriété plus le droit d'aubaine, c'est-à-dire la faculté d'obtenir de l'argent sans travail, eh bien ça, c'est la propriété capitaliste qu'il s'agit d'abolir. En fait.
Et il s'appuie notamment sur la théorie de la force collective, c'est-à-dire cette idée qu'un groupe d'ouvriers produit plus que ne le pourrait la somme de ses membres.
Voilà, donc ça c'est la fameuse théorie de l'obélisque qu'il décrit dans son ouvrage « Qu'est-ce que la propriété ?». Donc c'est l'idée qu'en fait le capitaliste paye une somme en fait de travaux individuels, mais il ne paye pas la force collective. Et il dit que en fait des ouvriers en arrivant à ériger l'obélisque en fait dégagent une force collective qui n'est pas payée par le capitaliste et qui ne paye qu'individuellement les individus.
C'est un surplus qu'il appelle une erreur de compte, et c'est ce surplus qui, selon lui, est volé, et c'est un concept qui sera ensuite récupéré par Marx. C'est la plus-value de Marx.
Chez Marx, en fait, la plus-value n'est qu'économique au sens strict du terme. C'est un vol d'heures, en fait, enfin d'heures de travail via le profit, etc. Tandis que chez Proudhon, il y a véritablement une dimension, sociologique, qui est liée aussi au collectif. Qu'on ne va pas retrouver particulièrement chez Marx. C'est peut-être la petite différence qu'on peut faire, notamment.
Et ce passage de la propriété qu'on va appeler capitaliste à la possession qui ne l'est pas, ça passe par une socialisation des moyens de production, Anne-Sophie Chambost.
Oui, bien sûr. Proudhon est très attentif à cette idée-là. Il la développe relativement tôt. Il me semble à cet égard que le passage à Lyon avec l'expérience du mutualisme est pour lui tout à fait enrichissante. Il y a effectivement cette idée d'une socialisation des moyens de production qui est absolument essentielle et qui permettra d'équilibrer, espère-t-il au minimum, le travail et le capital.
Il s'agit en fait d'une troisième voie qui est ni capitaliste ni communiste. Et c'est d'ailleurs sur la question de la place accordée à l'État notamment que Proudhon va se brouiller avec Marx. Mais alors comment se connaissent-ils d'abord, Anne-Sophie Chambost?
Ils sont rencontrés en 1848. 1945 de mémoire, à Paris. Il se trouve qu'il y a de très nombreux jeunes hégéliens en exil à ce moment-là à Paris. Et Proudhon est déjà célèbre. Marx a eu l'occasion de lire Proudhon et de dire tout le bien qu'il en pensait. Et effectivement, il se rend compte. Il se rend compte aussi avec Bakounine. Qu'ils ont des échanges intellectuels, philosophiques, très intéressants pour Proudhon qui ne lit pas l'allemand. Il est donc sous l'emprise d'un certain nombre de ces exilés allemands qui se chamaillent les uns les autres. On sait qu'il y a autant de socialisme en France que de socialistes, c'est à peu près la même chose pour les Allemands. Et Proudhon va se trouver en fait au milieu d'un conflit entre ces jeunes hégéliens. Donc Marx, qui a beaucoup célébré et beaucoup œuvré à la transmission de la pensée de Proudhon, va finir en effet par proposer à Proudhon de constituer un réseau européen de jeunes socialistes, et Proudhon répondra sans doute de façon un peu négligente. J'imagine qu'il a aussi vu, disons, certaines ambitions de Marx, et Marx ne lui pardonnera pas en fait d'avoir refusé de participer à ce réseau. Et du coup, voilà, la tension entre les deux va cristalliser autour du système des contradictions.
Ce refus, Anne-Sophie Chambos, Raoul Peck l'a mis en scène dans son film Le jeune Karl Marx. On l'écoute.
Proudhon.
Ah, très cher docteur.
Vous vous rappelez mon ami Engels?
Bien sûr. Je n'ai pas très bien compris votre lettre. Qu'est-ce que vous me demandiez? D'être le correspondant de la Ligue. Je vais être franc avec vous. J'ai trop de travail, trop de paresse en moi pour me lier par des obligations supplémentaires. Vous êtes plus jeune que moi.
Vous n'êtes pas obligé de nous reprendre tout de suite. On peut vous envoyer des documents, ça serait un honneur.
Non, c'est tout réfléchi. Par contre, je veux bien que nous continuions nos discussions par lettre ou autrement, mais pour Dieu, mon cher Marx, ne nous assassinons pas mutuellement. Ne proférons pas d'anathème. Ne faites pas comme Luther, qui, après avoir détruit le dogme catholique, a fondé une nouvelle religion tout aussi intolérante.
C'est votre dernier mot?
Certainement pas, mon cher. Certainement pas. N'avons-nous pas toute l'histoire devant nous?
Voilà, Proudhon va donc refuser de collaborer avec Marx, peut-être parce qu'il redoute l'ambition hégémonique de Marx. Édouard Jourdain.
Ça, je sais pas, parce qu'à l'époque, c'est pas du tout gagné. Là, juste pour la petite anecdote, ce qu'on a entendu à la fin de l'extrait, en fait, ce sont des extraits d'une lettre que Proudhon a envoyée à Marx, en fait, hein, que Peck a repris directement. Sur l'hégémonie, non, je ne sais pas, je pense que c'est un véritable problème à la fois philosophique et politique qui se pose entre les deux hommes, qui n'est pas encore véritablement, je pense, un problème d'organisation.
Il lui écrit « Ne nous faisons pas chef d'une nouvelle religion ».
Voilà.
C'est plutôt là-dessus que
il a déjà une méfiance, je pense, la Proudhon, par rapport à... Alors c'est peut-être lié aussi à la personnalité de Marx, hein, mais où il voit déjà peut-être une forme de dogmatisme avec lequel il a un petit peu de mal. C'est peut-être lié aussi au systématisme allemand, hein, puisque Marx est aussi un disciple de Hegel, dont Marx d'ailleurs disait qu'il se vantait d'avoir infecté Proudhon d'hegelianisme, dont il lui reprochait d'ailleurs de n'avoir pas du tout compris.
Et en 1846, Proudhon publie son système des contradictions économiques, sous-titré « Philosophie de la misère ». La réponse de Marx, intitulée « Misère de la philosophie », va être particulièrement cinglante, Anne-Sophie Chambos.
Oui, absolument. C'est un texte qui est une espèce de leçon d'un professeur à son élève qui aurait été très négligent dans son apprentissage. Bon, il faut dire qu'effectivement, c'est un texte de Proudhon assez complexe, dans lequel il essaye de résoudre toutes les antinomies de la société. Je ne suis pas exactement sûre que ça soit le texte dont il sera toujours le plus fier. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'après donc cette brouille entre les deux hommes, Marx poursuivra Proudhon de toute son hostilité.
Il le traite notamment de petit bourgeois, absolument, de mauvais économiste, de mauvais philosophe.
Absolument, ce que rencontre aussi un peu le film de Raoul Peck, où Proudhon apparaît comme un petit bourgeois. Marx aura plusieurs fois l'occasion d'écrire sur ou contre Proudhon. La réciproque n'est pas vraie.
Et alors comment l'expliquer ?
Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que Marx, dans un premier temps, et c'est ce dont rend bien compte le film, c'est-à-dire que à l'époque où Proudhon est déjà un penseur très connu, Marx l'est infiniment moins. Je pense que Proudhon a d'autres adversaires à ce moment-là de
sa carrière. Il a juste quelques annotations qu'il fait, notamment sur la réponse de Marx qui est Misère de la philosophie, où Proudhon dit mais en fait. C'est de la mauvaise foi, ou il répète ce que j'ai dit, etc. Et parfois, c'est pas totalement faux, d'ailleurs. C'est-à-dire que Marx lui reproche de pas avoir d'approche historique, ce qui est en grande partie faux. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des catégories, notamment de chapitres qu'on va retrouver dans Philosophie de la misère, va se retrouver par la suite dans Le Capital de Marx, quelques années après. Donc, ironie de l'histoire.
Et alors, dans quel contexte est-ce que Proudhon écrit ce système des contradictions économiques qui a provoqué la colère ou le mépris de Marx, Anne-Sophie Chambost?
Proudhon est à ce moment-là entre Paris et Lyon, où il a dû se rendre pour travailler chez des bateliers pour lesquels il fait un peu office d'avocat. Et il est effectivement très inspiré, je crois, par la découverte de seconde main de la pensée de Hegel. Et il essaye justement de mettre en mouvement de façon la plus systématique possible. Alors c'est peut-être là qu'on se rend compte que la pensée de Proudhon n'est pas systématique. Mais voilà, je pense que c'est un texte, Proudhon est encore à ce moment-là vraiment uniquement concentré sur les questions économiques, et il essaye à sa manière de résoudre la question sociale dont parlait Édouard.
Car Lyon est à l'époque un haut lieu ouvrier de l'Europe continentale.
Bien sûr, absolument.
On compare Lyon à Manchester par exemple.
Oui, tout à fait, et puis Lyon s'est déjà signalé par les révoltes des Canuts. Les Canuts lyonnais se signalent par un système d'organisation mutualiste qui va beaucoup l'inspirer, et donc il met un peu de tout ça dans ce système des contradictions économiques, et il annonce pour plus tard un système des contradictions politiques qu'il n'aura pas l'occasion de rédiger puisqu'il sera rattrapé par la révolution de 48.
Et le socialisme connaît alors un formidable essor à Lyon. Proudhon rencontre notamment Pierre Leroux et Louis Blanc, avec qui il aura également beaucoup de désaccords, Édouard Jourdain.
Oui, alors se dessinent là déjà les tensions et les polémiques qu'il y aura dans les mouvements socialistes par la suite, et notamment, je pense avec Louis Blanc, la question du socialisme étatique ou non étatique. Louis Blanc est une sorte, en effet, là, de socialiste qui estime que l'émancipation ouvrière doit passer par l'État et que le prolétariat doit faire avancer ses conquêtes grâce à l'État. Et là, Proudhon s'oppose totalement à cette conception.
Et on va voir que ces désaccords vont s'illustrer notamment au moment de la révolution de février 48. Mais avant ça, en quoi consiste en quelques mots la théorie du mutualisme de Proudhon qui développe justement dans le système des contradictions économiques, Anne-Sophie Chambost?
Pour aller à l'essentiel, elle repose sur la notion d'association et sur la notion d'échange. L'idée étant de favoriser finalement la circulation plus fluide des produits, de façon à permettre à ceux qui, les ouvriers qui travaillent, de pouvoir justement récolter un peu les fruits de leur travail.
C'est une forme d'autogestion ?
Oui, dans une certaine mesure, effectivement, l'idée c'est de créer des associations qui seraient des associations de production et de consommation, et dans laquelle, en particulier, les ouvriers pourront, par ce collectif, puisqu'on revient toujours aussi au collectif avec Proudhon, les ouvriers unis dans le cadre de ces associations mutualistes pourront produire et consommer, et du coup ne se trouveront pas soumis et à un patron et à un commerçant et aux règles du commerce qui, évidemment, les écrasent.
Proudhon parle alors d'une révolution généralisée. Il écrit à Marx en 1846 « Je propose de faire brûler la propriété à petit feu », mais en réalité il va être rattrapé par les événements, parce que quand le brûlot de Marx sort en 1847, toute l'attention de Proudhon est tournée vers les débats politiques qui précèdent la révolution de 48, et cela alors que jusqu'ici il s'est plutôt tenu à distance de la politique, Édouard Jourdain.
Oui, alors cette phrase que vous venez de citer là sur brûler la propriété à petit feu, Là aussi, c'est quelque chose de très important chez Proudhon. C'est-à-dire que lui-même se dit que ce n'est pas un bousculeur. C'est-à-dire que dans les lettres qu'il envoie à Marx, hein, il dit bien « ne faisons pas la Saint-Barthélemy des propriétaires ». Donc, c'est pas le révolutionnaire avec le couteau entre les dents qui veut tout faire brûler. Alors, lui, il parle de secousses politiques, hein, souvent peut-être récupérées par des dictatures, notamment. Bon, alors ça, il est très méfiant par rapport à ça. Et lui, sa grande idée, c'est de jouer sur les contradictions du système économique existant. Donc lui, sa grande idée, hein, c'est de fonder notamment une banque du peuple, à partir de laquelle eh bien, les ouvriers pourront se réapproprier des capitaux de manière à être possesseurs eux-mêmes de leurs moyens de production. Et cela sans qu'il n'y ait besoin de quelconque révolution armée, en fait. Hein. C'est simplement par un mécanisme institutionnel, qui serait cette banque qui permettrait d'octroyer des capitaux à un taux d'intérêt approchant zéro, parce qu'il a une critique du taux d'intérêt aussi très important dans la lignée de sa critique de la propriété avec le droit d'aubaine, etc. Et donc il estime qu'à partir de cette institution, eh bien cette révolution va pouvoir avoir lieu.
Même si cette banque du peuple, en l'occurrence, va se solder par un échec.
Oui, alors là aussi pour des raisons politiques en grande partie, c'est-à-dire qu'il va être emprisonné par celui qui va devenir Napoléon III.
Ce n'est pas parce qu'il ne trouve pas assez de souscripteurs à ses emprunts, justement.
Oui, un petit peu. Bon, mais...
Elle
marche quand même assez bien à la base.
Il y a un certain nombre de tout petits souscripteurs, mais dans la mesure où il ne parvient pas à obtenir finalement la mise de départ, puisque en fait au départ il est plutôt sur une banque, comme tu l'as précisé, il est sur une banque d'échange. Ça c'est le projet qu'il élabore avant même la révolution de 48. Et quand la révolution de 48 commence, effectivement, il va décider de créer donc cette banque du peuple. Pour la créer, il est bien obligé de faire avec les règles juridiques de l'époque. Et donc, effectivement, il faut un certain nombre de souscripteurs. Il n'obtiendra pas, en effet, assez de souscripteurs pour commencer même l'activité de cette banque. Ceci étant, même si c'est un échec, il dira vraiment dans les confections que c'est ce dont il reste le plus fier.
Et alors, c'est à cette période qu'il quitte Lyon pour devenir journaliste à Paris. Et quand la révolution de février 48 éclate, il est un révolutionnaire plutôt timide. Vous l'avez dit, Édouard Jourdain, c'est pas vraiment un homme de barricade.
Oui, alors il a cette anecdote où en fait, la révolution éclate à Paris et lui regarde un petit peu par la fenêtre. Il sort de chez lui et en fait, il se contente de déposer un pavé sur une barricade. Il rentre chez lui et il écrit « Voilà, bon, j'ai fait mon devoir de révolutionnaire. »
Pour lui, c'est une révolution par le haut, en fait.
Alors, c'est pas tant ce qui l'inquiète, le fait que ce soit une révolution par le haut, ce qui n'était pas sûr hein, au début. Mais c'est surtout, et il dira hein, dans Confession d'un révolutionnaire, qu'il a surtout peur que ce soit une révolution qui se fasse sans idée. Hein, donc, que ce soit juste un mouvement spontané de masse, mais qui n'a pas encore en tête un projet positif pour faire la révolution qu'il appelle de ses voeux. Et il a peur, en fait, que ce ne soit précisément qu'une secousse qui n'amène pas grand-chose de bien, voire peut-être même une dictature, là encore.
Oui, ce qu'il y voit, c'est qu'il s'agit simplement peut-être de remplacer un gouvernement par un autre, et non de mettre en marche une vraie révolution économique et sociale. Or, Proudhon se voit comme un économiste, et pour lui, il faut commencer par une transformation radicale des rapports de production, et le reste devrait suivre, finalement.
Oui, absolument. Donc, effectivement, ça peut donner l'impression d'un révolutionnaire, disons, plutôt modéré, alors même s'il y a beaucoup d'énergie dans ce qu'il écrit. Hein. Mais incontestablement, sa crainte, bon, il faut se rappeler qu'en 1848, il y a eu la révolution de 1830 et puis tout avait commencé en 1789, donc la France revit régulièrement des secousses révolutionnaires. Sa crainte en effet, c'est que cette révolution, comme les autres, ne soit que politique et en effet pas économique et sociale. Et en conséquence, il considère que le pire, ce serait qu'on se contente de passer au suffrage universel, ce qui a été la cause première du déclenchement de cette révolution, et qu'on s'arrête là.
Et peut-être que dans son projet, dans son concept d'association mutuelle, Proudhon fait preuve à la fois de réalisme et d'utopie. Les deux concepts se mêlent dans cette idée, Édouard Jourdain.
Proudhon sera toujours très critique par rapport à la notion d'utopie. Alors là aussi, parfois, c'est un contresens qu'on peut retrouver, même dans des ouvrages d'histoire des idées politiques, où on met Owen, Fourier et Proudhon dans les socialistes utopiques. Alors que Proudhon sera toujours très critique par rapport au, précisément aux socialistes utopiques de son époque, comme Owen et Fourier, dont il dit que, en fait, ce sont des individus qui ont construit un système abstrait dans leur tête, etc., et que l'humanité doit aller vers cette utopie en question. Alors que lui, c'est pas du tout sa démarche. Hein, elle est aussi empirique. Donc, chez lui, il y a une forme d'idéal, un horizon régulateur qui serait cette justice avec des formes de fédéralisme, d'autogestion, etc. Mais c'est pas une utopie, c'est quelque chose au contraire qui est ancré dans le réel et qui peut être en acte. C'est-à-dire que les individus sont capables tout de suite et maintenant aussi de pouvoir s'organiser sans que ce soit remis au calendrier grec avec l'idée d'une société complètement préconçue.
Même quand il estime que l'association mutuelle qu'il appelle de ses voeux va se généraliser naturellement en quelque sorte à toute la sphère économique.
Là encore, bon, il a peut-être une certaine forme d'optimisme, mais il y a cette idée qu'il peut y avoir, en effet, un effet de capillarité, hein, et que une fois qu'il y a des individus qui s'organiseront de manière autogestionnaire, c'est quelque chose qui est voué à s'étendre par effet d'imitation du bon exemple, en fait. Hein. Alors après, c'est pas quelqu'un qui reste dans le local. Hein. Il a aussi un point de vue global, mais en tout cas, ça, c'est pas quelque chose d'utopique à proprement parler, je ne pense pas.
Anne-Sophie Chambost.
D'autant moins utopique, je crois, qu'il voit finalement ces associations, ces clubs fonctionner. Il les a vus fonctionner à Lyon, il les voit fonctionner aussi à Paris, de façon, disons, officieuse, avant même le début de la Révolution de février, et puis après la Révolution de février, enfin, il y a une explosion des clubs et des associations ouvrières, et il pense en effet très raisonnablement que ce qu'il voit à l'œuvre à Paris est possible. Alors évidemment, il y a ensuite un biais, c'est-à-dire que, mais ça c'est un biais qui est partagé par des tas d'autres socialistes. C'est d'imaginer que ce qu'on voit du peuple ouvrier parisien peut répondre à un modèle qui s'étendrait sur toute la surface du monde.
C'était l'étude numéro 12 de Frédéric Chopin, interprétée par Dino Chiani. Nous sommes toujours avec Anne-Sophie Chambost et Édouard Jourdain et nous parlons de Pierre-Joseph Proudhon sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Alors c'est en 1848 que Proudhon commence véritablement sa carrière politique. Après un premier échec, il va obtenir un mandat de député aux élections du 4 juin. Anne-Sophie Chambost.
Oui, aux élections, lors d'élections complémentaires, où il sera élu en même temps que Pierre Leroux, Victor Hugo et un certain Louis-Napoléon Bonaparte. Il n'était pas favorable, disons, à la proclamation du suffrage universel qu'il jugeait précoce et possiblement du coup dangereuse, mais il est malgré tout tenté par la députation, bien persuadé qu'il faudra à l'Assemblée nationale constituante quelques personnes pour pousser justement la révolution économique et sociale.
Et alors à l'Assemblée, il fait figure d'épouvantail, comme l'explique l'économiste Thierry Menuel dans l'émission Une vie, une œuvre consacrée à Proudhon et diffusée l'année dernière sur France Culture.
Cham représente le personnage de Proudhon avec sa voix de dératiseur et sa perche sur laquelle sont suspendus non pas des rats, mais des propriétaires. On représente Proudhon effrayé en lisant ses propres articles, les cheveux hérissés sur le crâne à la lecture du peuple, parce qu'il découvre ce qu'il ose écrire. On représente Proudhon au moment de son discours à l'Assemblée nationale, avec le président derrière, avec une énorme cloche pour arriver à faire taire l'Assemblée nationale, scandalisée par les propos qu'il tient. On le montre toujours comme un ennemi de la propriété, de la famille et de l'Église.
Proudhon est largement pointé du doigt à l'Assemblée, notamment à cause de ses discours provocateurs, Édouard Jourdain.
Oui.
Ou jugeait-elle?
Oui, il fait vraiment figure, comme le disait Anne-Sophie, d'épouvantail. Mais après, Proudhon le leur rend bien, c'est-à-dire que il va avoir un souvenir de ce passage à l'Assemblée nationale qui va conforter en fait ses propres théories sur la critique de la représentation. Alors il y a notamment un petit passage dans ses confessions d'un révolutionnaire où il dit « Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent. »
Oui, il n'est pas tendre non plus.
Il n'est pas tendre non plus.
Et alors de son mandat, on retient sa participation au débat sur les ateliers nationaux, une institution qu'il n'approuve pas mais dont il refuse la fermeture parce que les ouvriers qui y travaillent n'auraient pas d'autre alternative, Anne-Sophie Chambost.
Oui, alors il a un rapport un peu ambivalent à cette question. Bon, ce qui est à l'arrière-plan de tout ça, c'est évidemment la question du droit au travail qui a été proclamé dès le début de la Révolution. Et quand on proclame ce droit, eh ben, il faut donner, il faut tenir la promesse, donc donner du travail, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a créé ces ateliers nationaux, issus d'une idée lointaine de Louis Blanc, mais quand même fortement dénaturée. Effectivement, Proudhon n'est pas favorable aux ateliers nationaux. Toutefois, lorsque la fermeture de ceux-ci est décrétée, effectivement, il se rend bien compte que fermer les ateliers nationaux, c'est renvoyer à la misère tout un ensemble d'ouvriers, car ils étaient très nombreux à s'être inscrits dans les ateliers nationaux. Simplement, comme le rappelait Édouard, il est à ce moment-là à l'Assemblée, très occupé, il fait partie du comité des finances, donc il est occupé par d'autres questions, il passe sa journée à l'Assemblée nationale, et dans les confessions il dira qu'il n'a pas vu venir les journées de juin
qui suivent,
c'est
donc
pour ça
la fermeture.
Qu'il parle de cet isoloir, effectivement. Mmh. C'est que il n'a rien vu venir, il était vraiment concentré toujours sur ces questions économiques, et ça va être pour lui, mais comme pour tous les autres, ces journées de juin sont vraiment un traumatisme, et pour lui ça va considérablement réorienter effectivement sa réflexion.
Il va être énormément choqué, Édouard Jourdain, par la violente répression des manifestations de juin qui suivent donc la fermeture des ateliers nationaux.
Oui, tout à fait. Donc ça aussi, il va y avoir après tout un tas de passages très virulents de Proudhon contre ça, qui viennent pour lui en fait, là encore, confirmer la violence du pouvoir politique aussi. Il a des mots très durs sur la tyrannie gouvernementale, sur l'état d'exception permanent. Ses écrits de 1848 à 1850, Confession des révolutionnaires, mais aussi ses articles de journaux qu'on va retrouver dans Idées révolutionnaires, sont peut-être ses écrits d'ailleurs les plus anarchistes, qui sont les plus virulents envers toute forme de gouvernement.
Et en même temps, il va s'interroger peut-être sur la nécessité pour le peuple de descendre dans la rue et à cause des dangers qu'il y court.
là encore, Proudhon est toujours un petit peu méfiant par rapport au mouvement de masse, par rapport au mouvement de dans les rues, etc. Lui, il parle d'oclocratie, hein, par exemple, quand il parle du pouvoir des masses, dont il a une certaine méfiance.
Avec cette idée qu'on peut facilement manipuler le peuple pour en réalité maintenir un pouvoir en place.
Exactement. Dès lors que le peuple est conçu comme une masse informe qui se réduit à une force, eh bien, cette masse peut aller dans tous les sens et être récupérée aussi par n'importe qui.
C'est pour ça qu'il dit que la souveraineté populaire, c'est aussi absurde finalement que le droit divin.
Exactement. Donc il a une critique sur même du suffrage universel, hein, quand on parle de vox populi, vox dei, où il dit que le plus sûr moyen de faire mentir le peuple, c'est de le faire voter comme un seul homme. Hein. Et il dit, mais la réalité sociologique, c'est pas ça. Il n'y a pas le peuple comme une masse unitaire, mais il y a bien une pluralité. Donc il y a une véritable pensée de la pluralité chez Proudhon au sein de la société. Et donc, d'où aussi sa théorie du fédéralisme qui entend respecter cette pluralité, qui permettrait une réelle démocratie en fait.
Alors on va y arriver à sa théorie sur le fédéralisme, mais avant ça, après le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851, Proudhon va publier sa révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 décembre, un ouvrage pour lequel il va être condamné à 3 ans de prison.
Non, il avait déjà été condamné.
D'accord.
Non, il est condamné pour une série d'articles, en fait. Donc, il n'est pas condamné par le Second Empire, il le sera plus tard en 58. Là, il a été condamné par la Deuxième République pour certains articles qui ont été publiés en 1849. Donc, il est déjà en prison, en fait, au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.
Et donc c'est seulement après qu'il va s'exiler en Belgique et commencer ses travaux sur le fédéralisme qui aboutiront à la publication de son ouvrage « Du principe fédératif » en 1863. C'est son dernier grand ouvrage avant sa mort 2 ans plus tard. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Jusqu'à présent, le fédéralisme n'avait éveillé dans les esprits que des idées de désagrégation. Il était réservé à notre époque de le concevoir comme système politique. Les groupes qui composent la Confédération, ce qu'on nomme ailleurs l'État, sont eux-mêmes des États, se gouvernant, se jugeant et s'administrant en toute souveraineté selon leurs lois propres. La Confédération a pour but de les rallier dans un pacte de garantie mutuelle. Dans chacun des États confédérés, le gouvernement est organisé selon le principe de la séparation des pouvoirs. L'égalité devant la loi et le suffrage universel en forment la base. Voilà tout le système. Dans la Confédération, les unités qui forment le corps politique ne sont pas des individus, citoyens ou sujets. Ce sont des groupes, donnés a priori par la nature, et dont la grandeur moyenne ne dépasse pas celle d'une population rassemblée sur un territoire de quelques centaines de lieues carrées. Ces groupes sont eux-mêmes de petits États, organisés démocratiquement sous la protection fédérale, et dont les unités sont les chefs de famille ou citoyens. Ainsi constituée, la fédération résout seule, en théorie et pratique, le problème de l'accord de la liberté et de l'autorité, donnant à chacune sa juste mesure, sa vraie compétence et toute son initiative. Seule, par conséquent, elle garantit avec le respect inviolable du citoyen et de l'État l'ordre, la justice, la stabilité et la paix.
Que vous inspirent ces mots de Proudhon, Anne-Sophie Chambost? Quel est ce système fédéraliste que Proudhon promeut?
Alors, Proudhon, effectivement, sur la question du fédéralisme, écrit alors très tôt, hein, au début de son œuvre, il y a déjà un certain nombre d'allusions, mais comme vous l'avez dit, effectivement, vraiment dans les années 1860 qu'il va reprendre cette question. Faut se rappeler que c'est un moment où se développe un peu partout en Europe, particulièrement en Italie, la question des nationalités. Et ce à quoi aspirent ceux qui défendent cette question des nationalités, c'est des États unifiés. Et dans État unifié, il y a État, donc pour Proudhon, ça pose un problème. Et donc, c'est une réponse qu'il émet à un certain nombre de socialistes, particulièrement des socialistes italiens. Donc, cet État fédéraliste, ou en tout cas ce gouvernement fédéraliste, une façon pour lui de neutraliser en quelque sorte l'État, avec à l'échelon le plus bas, hein, ce qu'il appelle donc l'atelier ou la commune. Et puis, l'idée, ce serait de monter, et l'État se trouve se faisant complètement phagocyter, l'État n'étant plus qu'un grand rassemblement de grands services publics. En fait, l'État n'est plus qu'une source d'impulsion, ou un tuteur de la société, mais la société est censée se débrouiller par elle-même.
C'est l'idée que l'ordre social va résulter du seul fait des transactions et des échanges, Édouard Jourdain?
il y a quand même une sensible différence par rapport à ses écrits, notamment de 1848-1850, où précisément le seul échange économique permettrait de tout résoudre. Donc, où en quelque sorte, eh bien, l'atelier remplacerait le gouvernement. Là, dans le fédéralisme, il insiste bien sur une dimension politique, tout de même, qui ne soit pas qu'économique. Donc, son fédéralisme, il est à la fois politique et économique. Donc, il faut oublier ni l'un ni l'autre. Et il dit que si on a le fédéralisme sans la révolution économique qui va avec, hein, sans un fédéralisme économique, eh bien, on a une forme d'anarchie mercantile qui peut être aussi très dangereuse, dans la mesure où là, l'État ne peut plus protéger les plus faibles, etc. Donc, il dit même, il vaut mieux un État centralisé dans une économie libérale ou capitaliste qu'un système fédéral où là, tout le monde est laissé à sa propre faiblesse aussi, et où le faible peut être mangé par le plus fort. Donc, il parle de fédéralisme agricole industriel aussi à la fin de sa vie. Donc ça, il y a ces deux dimensions économiques et politiques qui sont toutes les deux très importantes.
C'est l'idée que ces sociétés autogérées sont appelées à devenir de véritables républiques électives.
Oui, il parle de république électives.
L'élection, dans ce cas précis, y est favorable.
Là, l'élection est très importante parce que lui, ce qu'il reproche au suffrage universel, c'est son mode de fonctionnement, d'une certaine mesure. C'est de faire voter le peuple comme un seul homme. Donc, il y a une dimension presque, théologico-politique. À un moment, il compare le suffrage universel à la sainte ampoule mérovingienne. Bon. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut organiser le suffrage universel. Donc, l'organisation du suffrage universel, en fait, c'est pas être contre la notion d'élection, c'est au contraire élargir l'élection à toutes les dimensions sociales qui occupent la société, donc y compris économique, y compris politique, etc. Donc c'est le même raisonnement qu'avec la propriété. Il n'est pas contre la propriété en tant que telle, bien qu'il y ait, ce soit dans son fonctionnement capitaliste qu'il la critique, mais il dit d'une certaine mesure, c'est en élargissant la propriété qu'on peut aussi résoudre le problème, en faisant en sorte que tout le monde soit possesseur. Et bien avec le suffrage universel, c'est pareil. Il faut que tout le monde puisse être capable de voter sur les décisions qui les concernent.
On l'a dit, Proudhon est aussi l'un des premiers théoriciens de l'anarchisme. Et alors, il faut peut-être distinguer avec lui, Anne-Sophie Chambost, l'anarchie négative, synonyme de désordre absolu, et l'anarchie positive, qui est une absence de gouvernement.
Oui, mais ça, il le dit effectivement dès le premier mémoire sur la propriété. C'est-à-dire que il dit quoique très ami de l'ordre, je suis de toute la force du terme anarchiste. Donc il n'oppose pas anarchie et ordre. L'anarchie, ça n'est pas que le chaos, enfin ça c'est l'anarchie négative, mais il complète cette anarchie négative d'une anarchie positive avec cette idée qu'en fait l'anarchie, ça n'est pas l'absence d'ordre, c'est la quête d'un ordre qui ne serait pas un ordre étatique. Et donc effectivement, c'est l'idée d'un ordre social, et comme Édouard le rappelait, la société va sécréter ses propres normes. Il a une conception organiciste de la société. En fait, ce que la Révolution française a prétendu abolir, c'est-à-dire tous les corps intermédiaires, pour qu'il ne reste rien entre l'individu et l'État, et bien, toute l'œuvre de Proudhon, c'est d'essayer de penser la pluralité, de penser le collectif, et de penser qu'entre l'individu et l'État, eh bien, il y a tout un ensemble de corps intermédiaires, d'où le mutualisme, d'où le fédéralisme.
Donc finalement, pour Proudhon, le fédéralisme, c'est l'expression politique de l'anarchie.
Oui, juste même pour ajouter un petit quelque chose à ce que disait Anne-Sophie, j'irai même plus loin, c'est-à-dire que pour lui, les formes de gouvernement et de propriété telles qu'elles existent sont des facteurs de désordre. Même. Donc pour lui, c'est en tant qu'anarchiste qu'il est pour un ordre.
C'est le gouvernement
véritable,
qui est chaotique.
Exactement. Ou qui crée le chaos. Hein, parce que il a des prétentions telles qu'en fait, il ne peut pas être lié véritablement au réel. Là encore, on a parfois opposé un premier Proudhon anarchiste avec, par la suite, un Proudhon fédéraliste. Mais là encore, il y a une sorte de logique chez lui, où il affirme que c'est logiquement qu'il a commencé par l'anarchie pour arriver au fédéralisme, c'est-à-dire une forme politique et économique qui soit l'expression de l'autonomie des êtres collectifs. Et c'est ça, en fait, pour lui, l'anarchie. C'est de ne pas avoir d'entité absolue qui gouverne à tout le corps social, mais que véritablement, eh bien, le corps social se gouverne lui-même.
Alors, on approche du terme de cette émission, mais je voudrais vous demander quel est aujourd'hui l'héritage intellectuel de Proudhon. Peut-être qu'il a été longtemps occulté, Sophie Chambost, par la figure écrasante de Marx.
Oui, incontestablement. Même si je crois que la pensée de Proudhon réapparaît quand même assez régulièrement après sa mort, au moment de la Commune, au début du XXe siècle. En fait, globalement, chaque période de crise, la pensée de Proudhon est mobilisé, un certain nombre de personnes essayent d'y trouver un certain nombre de solutions. Quant à savoir ce qu'il en reste aujourd'hui, ben précisément, je crois qu'il y a, puisque nous sommes dans une période de crise, je pense qu'il y a des aspirations à des formes de coopératives, de mutualisme, et qui peuvent trouver effectivement un certain nombre de fondements théoriques et pratiques chez Proudhon.
Avant la révolution bolchevique de 17, Proudhon était une référence essentielle des mouvements socialistes et anarchistes. Vous avez parlé de la Commune, Anne-Sophie Chambost. Il y a aussi les anarcho-syndicalistes et le mouvement des coopératives qui s'en réclament, et des acteurs aussi différents que Jean Jaurès, Georges Sorel ou Clémenceau sont des fervents lecteurs de Proudhon. Est-ce que vous diriez, Édouard Jourdain, que c'est depuis la chute du mur finalement qu'on assiste à un regain d'intérêt pour cette figure qu'est Proudhon?
Oui, ça a aidé, parce que la chute du mur dans l'imaginaire, ça allait aussi avec la chute de Marx. Donc en fait, dans l'idée d'un autre monde ou de nouvelles formes socialistes, eh bien, Proudhon est revenu un petit peu sur la scène. Alors avec notamment dans les années 90, 2000, les mouvements altermondialistes qui essayaient de repenser aussi des formes d'organisation démocratique qui remettent en cause une certaine forme de représentation, donc aussi avec des contrôles d'élus, des mandats impératifs, etc. Avec la question sociale aussi qui est revenue sur comme le disait Anne-Sophie, sur les coopératives aussi, la question de l'autogestion qui avait réémergé un petit peu après en 68, notamment avec l'IP, etc. Bon.
Et puis vous dites aussi que la réflexion sur les communs, à laquelle nous avons consacré une semaine début de l'année, lui doit beaucoup et doit beaucoup à sa réflexion sur
tout
la propriété.
Tout à fait. Alors ça, c'est assez flagrant. Alors de voir que la notion de commun, qui est en fait là, essayer de concevoir une gouvernance de la propriété qui se fasse sans l'État ni une propriété capitaliste, mais sous forme de là aussi de coopération, est très important, et en effet il y a des retours à Proudhon dans ce sens-là. Il y a aussi en termes politiques, même par rapport au fédéralisme, des mouvements assez intéressants, même là tout actuellement, dans le Kurdistan syrien par exemple, on parle de confédéralisme démocratique. Alors eux qu'ils empruntent directement à Murray Bookchin, qui est un théoricien anarchiste qui se réclame du municipalisme libertaire, mais
en
qui
lui-même... En l'occurrence, beaucoup d'autoritarisme. Dans le cas du Rojava, il y a un parti unique, enfin c'est une démocratie relative.
Alors, il peut y avoir des problèmes en effet avec avec le parti YPG, etc. Mais il y a aussi théoriquement et pratiquement aussi des certaines formes d'autogestion et de confédéralisme qui seront assez intéressants aussi.
Je vous laisse le mot de la fin, Anne-Sophie Chambost. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Proudhon, qui a été longtemps peut-être occulté et dont la pensée a été peut-être oubliée à une certaine période?
Il faut en retenir une pensée extrêmement florissante, qui peut donner effectivement l'impression, c'est le cas de la justice dans la Révolution et dans l'Église, qui est une espèce de synthèse de la pensée de Proudhon et qui comporte plus 1200, 1500 pages, je me souviens plus exactement du nombre de pages, donc ça donne évidemment le sens de son absence de synthèse. C'est une pensée extrêmement riche, très féconde, et pour la juriste que je suis, effectivement, c'était assez intéressant d'observer comment cet auteur, qui ne veut pas d'un ordre étatique, essaye de développer cette idée d'un autre ordre.
Thank you.
C'est avec Camille Saint-Saëns et son concerto en fa majeur interprété par Jean-Yves Thibaudet que notre émission s'achève. Merci beaucoup Anne-Sophie Chambost et Édouard Jourdain de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle vos livres, Anne-Sophie Chambost, Proudhon, l'enfant terrible du socialisme, publié chez Armand Collin. Édouard Jourdain, Proudhon contemporain, paru cette année aux éditions du CNRS. Et Proudhon, un socialisme libertaire, paru chez Michalon. La semaine prochaine, trois grands économistes nous rejoindront autour de la table. Thomas Piketty, puis Olivier Blanchard et Stéphanie Stancheva, des entretiens au long cours qui nous mèneront dans les coulisses du FMI et les sentiers sinueux de la recherche en économie. En attendant, toutes nos émissions sont disponibles à la réécoute sur franceculture.fr et en podcast. Et pour nous donner votre avis, ça se passe sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.